nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Corpus Christi, c'est la fête, la solennité, la grande solennité d'aujourd'hui. Nous célébrons le corps et le sang du Seigneur réellement présent parmi nous par le miracle de l'Eucharistie. L'institution, l'adoration et la réception, en quelques mots. L'institution, tout d'abord, de l'Eucharistie, on ne peut adorer le Seigneur sans se rendre compte du geste qui vient d'être posé. C'est pourquoi la liturgie nous rappelle cette institution par saint Marc. Le Seigneur prit du pain au cours d'un repas. Ce repas, vous le savez, nous ne pouvons oublier ce que c'est sans risquer de ne pas comprendre ce qu'est l'Eucharistie et le geste que le Seigneur fit. Ce repas, c'est le repas pascal. Ce n'est pas un dernier repas avec ses disciples dans un sens amical quelconque. C'est le dernier repas de la Pâque. C'est le dernier repas liturgique dans la liturgie juive que tout rabbin dirige. Une liturgie familiale, mais une véritable liturgie. C'est le souvenir, la mémoire vive encore aujourd'hui dans le peuple d'Israël de la libération d'Égypte, c'est-à-dire du passage de la mort à la vie, ce passage de la mer Rouge, Pessah, ce fait qu'ils aient pu sortir, passer de la mort à la vie, et c'est ça qu'ils commémorent. L'agneau qui va servir au repas pascal et dont le sang aspergera les linteaux de la porte permettra que le peuple soit protégé de la mort. Ils sont ressuscités deux fois dans ce repas pascal. Ils sont libérés du péché et ils sont libérés de la mort. Les deux sont liés. Si vous ne vous souvenez pas du sang répandu sur le linteau de la porte, vous ne pouvez rien comprendre à l'agneau de Dieu. Parce que c'est exactement ce qui sauve le peuple dans la fête de Yom Kippour pour laver des péchés. Cette fête existe toujours, mais il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacrifice. Or, il y avait un sacrifice. On prenait deux agneaux purs de l'année, sans défaut, les premiers-nés. On les tirait au sort. Le premier était chargé des péchés du peuple, symboliquement par une petite boîte, et on l'envoyait mourir au désert. C'est le bouc émissaire. Il restait l'agneau parfaitement pur, pur humainement, puisqu'il était sans défaut, et pur spirituellement, puisque l'autre avait pris des péchés. Voilà ce qu'on offrait à Dieu, victime dérisoire, qui devait se refaire chaque année, car le peuple juif savait bien que si ce sacrifice était agréable à Dieu, il ne pouvait parfaitement pas les sauver. Voilà comment il faut comprendre la désignation du Baptiste quand il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Ce n'est pas une gentille désignation amicale, c'est véritablement la charge symbolique du salut qui arrive, le véritable agneau, et voilà pourquoi nous n'avons plus d'agneau matériel sur nos autels, parce que c'est le Christ qui est l'agneau véritable. Voilà pour l'Ancien Testament et son lien. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi notre Seigneur, au cours de ce repas, va se substituer à l'agneau qui se trouve sur la table. Et à travers les espèces du pain et du vin, se rendre lui-même présent. Bien sûr, nous ne comprenons ça que si nous avons bien compris que le jeudi saint, le vendredi saint et la résurrection sont complètement inséparables, nous qui sommes encore dans la mémoire du Triduum que nous avons fêté, si vous séparez l'un de ces jours, il n'y a plus aucun sens à ce que fit notre Seigneur. Car il est évident que ce n'est pas du pain ni du vin qui nous sauve. Ce qui nous sauve, c'est que Dieu, parce que ça c'est le signe d'un agape, et c'est déjà très bien, c'est très sympathique humainement de faire des agapes, mais ça ne sauve pas ma vie, cela ne rachète pas ma vie pour l'éternité, cela n'efface pas mon péché. Cela me fait oublier le temps d'un repas sympathique s'il est, que je suis mortel. Ce qui me sauve, c'est la mort du Christ sur la croix, c'est le fait qu'il livre sa vie pour moi, qu'il se donne. Et bien entendu, le jeudi saint est le support de la réalité du vendredi saint. Quand il dit « Ceci est mon corps, livré pour vous, ceci est mon sang, versé pour la multitude », il ne l'a pas encore fait, en tout cas temporellement. C'est-à-dire que ce qu'il promet le jeudi, il le réalise le vendredi. Le signe qu'il établit le jeudi va se réaliser le vendredi. Et parce qu'il est ressuscité, c'est-à-dire parce qu'il est éternel, parce qu'il n'est plus dans cette temporalité où moi je suis, en reposant le geste qu'il m'a laissé, je commémore sa mort et sa résurrection, et il se rend présent dans l'actualité éternelle du don de la croix. Voilà ce qui se passe à l'Eucharistie. Parce que le Christ est ressuscité, parce qu'il est auprès de Dieu, parce qu'il est éternel, parce qu'il n'est plus limité ni par l'espace ni par le temps, parce qu'il n'y a plus aucune contingence en lui, à tout instant de la célébration, de tout instant du monde, à chaque fois que l'on célèbre cette messe, à chaque fois que nous faisons mémoire de lui en offrant le pain et le vin modestement, comme il nous l'a enseigné, c'est lui, miraculeusement, qui rend présent sa croix éternelle qui doit être dressée sur l'autel, normalement, parce que justement, c'est la présence éternelle du salut du monde. Je ne suis pas sauvé par un repas, je suis sauvé parce que Dieu a donné sa vie pour moi. Voilà. Dans la contemplation de ce grand mystère, les chrétiens se sont mis à adorer, à vénérer, à recevoir, à communier ce don éternel qui se rend présent, cette faille spatio-temporelle qui ouvre l'éternité et la rend présente ici sur l'autel. Vous le savez peut-être, au tout début de l'Église, on a gardé les espèces eucharistiques pour les porter aux malades, pour les porter à ceux qui ne pouvaient pas venir, aux emprisonnés. Et c'est en conservant avec respect le Seigneur présent sur l'autel qu'est né le sentiment de la nécessité de l'adoration, de pouvoir rendre un culte au Seigneur. Et le Seigneur présent au tabernacle, là-bas, je ne vais pas aller plus loin, mais ici, n'est-ce pas, normalement, eh bien le Seigneur présent au tabernacle, au milieu de nous, au centre de nous, au sommet de notre activité liturgique et donc de notre vie, eh bien, les chrétiens se sont dit, adorons-le. Jetons-nous à ses pieds, nous avons l'extrême chance, comme tous ceux qui ont pratiqué la proskynèse, qui se sont prosternés devant le Seigneur, reconnaissant sa divinité, nous avons encore, jusqu'à la fin du monde, la chance infinie de pouvoir le faire. C'est-à-dire de pouvoir rendre déjà sur terre un acte d'adoration divin à Dieu. Alors, mes bien chers frères, faites donc votre génuflexion, autant que vous pouvez, avec dévotion. Une femme visitant le curé d'Ars, il reçut beaucoup de visites, entrant dans son église et le voyant passer devant le Saint-Sacrement, écrit, en le voyant faire sa génuflexion, j'ai compris ce que voulait dire la présence réelle du Seigneur parmi nous. Et oui, que nos actes d'adoration soient vrais, profonds. Comment passer devant une église sans que, si vous ne pouvez vous arrêter un instant, sans que notre cœur ne se porte au Seigneur qui se rend présent, vulnérable au milieu de nous? C'est un mystère ineffable. Le don qu'il fit sur la croix, il le rend présent ici, dans le tabernacle. Nous devrions, dit Gandhi, qui n'aimait pas beaucoup les chrétiens, soyons honnêtes, et c'est un peu par moquerie qu'il dit ce que je vais citer, mais c'est intéressant. Il disait, si moi je croyais que mon Dieu habitait là, dans une église, c'est à plat ventre que je rentrerais dans l'église. Combien de fois il est triste de voir passer, même des chrétiens, devant le Saint-Sacrement, comme s'ils visitaient une porcherie. Ayons une grande dévotion dans l'Eucharistie. C'est lui, notre Seigneur réellement présent, celui que nous allons recevoir. C'est ainsi que sont nées les processions qui datent du XIVe siècle. Les chrétiens réfléchissent doucement, mais sûrement. C'est le prince-évêque de Liège, figurez-vous pour la petite histoire, qui, prenant possession de son territoire, comme tout bon fief et comme tout bon suzerain, se devait à cheval de faire le tour de son territoire pour manifester sa puissance et sa possession. Et ce prince-évêque de Liège, grâce lui soit rendue, se dit, mais le vrai roi des rois, le vrai roi de ce territoire, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Alors il se dit, je vais faire le tour de mon territoire à cheval, mais en portant le Seigneur. C'est ce que le très Saint-Père fait encore tous les ans, quand il va en procession de Saint-Pierre de Rome à Saint-Jean de Latran, pour porter le Seigneur à travers les rues de Rome, sortir, le montrer, qu'il prenne possession de son peuple, mais que son peuple ait aussi la chance de le voir. Je ne sais pas si cela continue, mais j'ai souvent fait la procession jusqu'à Montmartre, avec le cardinal Lustiger, ou le cardinal 23 d'ailleurs, montant en procession jusqu'à Montmartre et bénissant la ville. Ce monde gémit dans l'attente de la bénédiction de Dieu, de son amour répandu. Alors enfin, il nous est même donné ce Seigneur présent réellement, de le recevoir. Là, c'est un admirabile commercium, dit saint Thomas d'Aquin, un échange ineffable qu'il est difficile de décrire, car évidemment, nous n'attrapons pas le Seigneur en nous. C'est lui qui descend en nous. C'est lui qui se rend présent en vous penchant auprès du ciel, c'est-à-dire auprès de l'autel. C'est pour ça que c'est vous qui venez, sauf disposition matérielle parfois, mais c'est vous qui venez jusqu'au pied de l'autel recevoir le Seigneur présent. C'est lui qui va prendre possession de vous. C'est lui qui va nous inclure en lui. C'est lui qui est infini et éternel, qui peut nous prendre sans nous détruire, sans nous abîmer, parce qu'il nous aime, il va vous introduire profondément en lui. Dans un instant, au cours de la prière eucharistique, vous ne serez plus véritablement ici, vous serez en Dieu. Voilà pourquoi on pourra prier pour le pape qui est à Rome, pour l'évêque de ce lieu, pour les malades, pour les vivants, pour les morts, pour tous ceux que nous pouvons toucher à l'intérieur de ce point focal de l'Eucharistie, qui est la réelle présence de Dieu et donc l'union de tous ceux qui sont unis à lui. Ainsi soit.